Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous êtes cinéphile ou pas. Je suppose que oui, vous aimez regarder des films. Non, personne. Ok. Je ne sais pas si vous avez vu le film Kingdom of Heaven, le royaume des cieux. Alors, si vous ne l'avez pas vu, le pitch est très simple. C'est l'histoire de Balian d'Ibelin, un croisé qui part à Jérusalem pour défendre la ville contre les musulmans. C'est l'une des croisades. Donc, si pour les réalisateurs d'Hollywood, le royaume des cieux s'apparente à une histoire romancée d'un croisé qui défend la ville sainte par la violence, par la guerre, ils ont tout faux, j'ai envie de vous dire. Parce que le royaume des cieux, c'est à l'exact opposé de ce qui est décrit dans ce film. Même si, bon, il y a des parties qui peuvent s'assimiler à l'évangile, mais c'est pas ça. Tout au long des évangiles, Jésus explique à ses différents auditeurs ce qu'est le royaume des cieux. Et il le fait notamment par les paraboles. Et donc, on va prendre aujourd'hui un temps de voir à quoi ressemble le royaume des cieux. Il y a 2-3 mois, je crois que je suis venu, j'avais partagé la parabole sur les 10 vierges, enfin sur les 10 jeunes filles. Sur les 10 jeunes filles, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que lorsque, une fois de plus, on lit, on relit une histoire ou une parabole, on pense connaître certaines choses. Et cette parabole, elle est assez connue aussi, si vous avez grandi dans l'Église. Et donc, on va étudier ce que Jésus dit sur ce à quoi ressemble le royaume des cieux vis-à-vis, en parallèle de cette parabole. Très simple. Mon message se partage en 3 parties. Le royaume des cieux s'apparente, premièrement, à un festin. Deuxièmement, une invitation. Et troisièmement, un cadeau. Un festin, une invitation, un cadeau. Premièrement, donc, on va voir que le royaume des cieux, c'est un festin, d'abord. Lisez avec moi les versets 1 et 2. Jésus prit la parole et leur parla de nouveau en parabole. Et il dit, « Le royaume des cieux ressemble à un roi qui fit des noces pour son fils. » C'est clair. Le royaume des cieux, c'est un festin. Alors, j'ose imaginer que vous êtes tous déjà allés à un mariage. Je viens de vous rencontrer, vous êtes mariés en avril. Et on est toujours content d'aller à un mariage. Et j'imagine qu'on est encore plus content de se marier, n'est-ce pas? Mais il y a la cérémonie à la mairie. Même si ça reste la mairie, ça reste quand même un acte fort. Ça reste un acte, c'est l'acte légal. Il y a la cérémonie à l'église. Il y a les échanges de vœux, il y a le cadre, il y a les amis. Bref, un mariage, c'est quand même spécial. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, le moment que j'attends le plus lors d'un mariage, c'est le dîner. Pourquoi ? Parce que c'est très simple. C'est littéralement un privilège que d'être invité au dîner. On est d'accord ? Tous ne sont pas invités au dîner. Seuls les gens les plus proches, les plus intimes sont invités au dîner. Et c'est mon moment préféré dans un mariage parce que non seulement on y mange bien, non seulement on fait connaissance avec d'autres personnes, mais surtout, qu'est-ce qui s'y passe? On fait la fête. On fait la fête lors du dîner. Est-ce que vous êtes déjà allé à un mariage royal? Moi non plus. Alors supposons un instant que nous étions invités l'année dernière au mariage du prince Harry et de Meghan Markle. Supposons un instant qu'on a été invités à leur mariage. C'est toute l'aristocratie, c'est tous les gens, hommes et femmes politiques puissants qui sont là, c'est toutes les célébrités qui sont invitées. Et donc, on est invité à leur mariage, on est attablé au dîner, et on est entouré de toutes ces personnes. des célébrités, des hommes et des femmes politiques, des gens de la noblesse et de l'aristocratie. Et bref, on est une sorte d'étranger, une sorte d'ovni au milieu de toutes ces personnes-là. Et toute la soirée, on se pince pour savoir si on est vraiment invité à ce mariage royal qui était celui de Harry et de Meghan. C'était quand même le mariage de l'année, non ? L'année dernière. Mais la réalité, c'est qu'on... Enfin, l'illusion, c'est qu'on y est dans ce mariage. On est présent à table. On est à une soirée qu'on ne devrait pas être, où l'on ne devrait pas être. Et Jésus nous dit, le royaume des cieux est semblable à un festin de noces royales. C'est ce qu'il nous dit. Et l'illustration que je viens de vous dire, le fait qu'on soit invité au mariage du prince Harry et de Meghan, ça paraît totalement invraisemblable. C'est impossible qu'il nous invite personnellement. Alors l'idée que Dieu nous invite à un mariage, à un festin de noces royales, c'est encore plus compliqué à imaginer, j'imagine. Pour moi, l'une des plus grandes tragédies dans l'Église, c'est sa réputation qu'elle s'est acquise au fil des années et des siècles. Le fait que la religion chrétienne soit assimilée à un ensemble de règles que l'on doit respecter sans émotion, qu'on doit suivre aveuglément. Et effectivement, dans la religion chrétienne, il y a des règles, il y a des lois, il y a des commandements. On est conscient de cela. Mais pour moi, ça reste secondaire. Dans la religion, les lois, les commandements, c'est secondaire. Pourquoi ? Parce que le message de Dieu, son principal message, c'est quoi ? C'est simple, c'est l'amour, la grâce, la rédemption, la joie, la paix. Ce sont ces valeurs pour lesquelles on est tombé amoureux de Dieu et de Jésus. On est d'accord ou pas ? Et lorsqu'on va à un mariage, oui, certes, il y a un protocole à respecter, on est d'accord ? Il y a un protocole à respecter. Mais l'état d'esprit, c'est quoi lorsqu'on va à un mariage ? C'est de vouloir célébrer le couple qui se marie devant nous. Parce qu'il y a la joie, il y a l'amour, il y a la grâce. Et c'est pareil avec Dieu. C'est exactement la même chose. Et lorsque l'on lit les évangiles et que l'on regarde davantage plus près de la vie de Jésus, qu'est-ce que Jésus faisait lorsqu'il ne prêchait pas, lorsqu'il ne exorcisait pas les démons, lorsqu'il ne guérissait pas les malades? Qu'est-ce qu'il faisait? C'est très simple. Jésus, il s'asseyait à une table, il mangeait, il buvait, il festoyait. Il était avec des personnes qui étaient contentes d'être dans sa présence. Et c'est ça que les pharisiens n'ont jamais compris dans les évangiles, c'est que c'est même arrivé que les pharisiens, les docteurs de la loi, traitent Jésus de gloutonnerie et de beuverie. Il y a un verset qui dit ça. C'est parce qu'ils n'avaient absolument pas saisi la nature du royaume des cieux. Et si on comprend justement l'évangile et le royaume de Dieu, ce qui est au cœur du message de l'évangile, c'est vraiment l'amour, la grâce et la joie. Comme lorsqu'on célèbre les noces d'un ami qui se marie. C'est exactement la même chose. Et donc ma question pour vous cet après-midi, c'est que si vous vous considérez en tant que chrétien, en tant que chrétienne, en tant que disciple de Christ, est-ce que vous avez cette joie dans votre vie ? Est-ce que vous avez cet amour ? Est-ce que vous rayonnez de joie autour de vous ? Est-ce que vous êtes content et joyeux d'appartenir à Christ, de faire partie de son royaume ? Est-ce que vous êtes content d'être là aujourd'hui pour venir célébrer et adorer notre Dieu ? Je ne sais pas où est-ce que vous en êtes dans votre cheminement, dans votre marche avec notre Seigneur, mais si vous ne vous considérez pas forcément chrétien ou croyant, je ne sais pas où est-ce que vous en êtes. considérer une chose. C'est de mettre de côté toutes les notions que l'on a reçues sur la religion chrétienne qui pensent que c'est un ensemble de règles que l'on doit suivre scrupuleusement. Parce que même en tant que chrétien, parfois on n'est pas prêt à entendre le fait que le christianisme, ça va au-delà des règles, des lois et des commandements. La religion chrétienne, c'est quoi ? C'est un festin. C'est un festin, c'est une fête. Et chaque personne est invitée à aller à ce festin. Le royaume des cieux, c'est non seulement un festin, mais c'est aussi une invitation. En effet, une invitation qui est envoyée à tous, à tout le monde, à laquelle un jour on devra tous répondre. Mais revenons à notre texte. Lisez avec moi le verset 3. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Donc, notons que ici, le roi appelle celles de ceux qui sont invités aux noces du mariage de son fils. C'est très simple. Lorsqu'un couple se marie, qu'est-ce qu'il fait? Ils ont un carton d'invitation. Ils l'envoient aux invités qu'ils invitent. Et donc, ces derniers doivent répondre oui ou non, on est d'accord ou pas. S'ils peuvent pas y aller, ils déclinent l'invitation. Et s'ils répondent favorablement, c'est logique d'y aller, tout simplement. C'est l'histoire de David. David, c'est l'un de mes anciens pasteurs aux États-Unis. Et il avait un ami à la fac avec qui il était très proche lorsqu'il a fait ses études à l'université. Et lorsque David, mon ancien pasteur, se marie, naturellement, il invite cet ami de la fac à venir au mariage, et cet ami répond favorablement à cette invitation. Arrive le jour J du mariage. Cet ami ne viendra jamais au mariage. Et donc, au début, David, mon pasteur, il se dit qu'il est forcément, il lui est arrivé quelque chose, etc., etc. Et donc, il lui laisse le bénéfice du doute. Et puis, finalement, au bout d'un certain temps, il appelle. Donc, David appelle son ami et lui demande, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi t'es pas venu au mariage alors que t'as dit que tu viendrais? Et en fait, son ami lui répond tout simplement, qu'il avait la flemme de conduire quelques heures pour aller au mariage. Et donc, David, mon pasteur, m'avouera plus tard que, légitimement, il était quand même énervé, il était en colère contre son ami. Et c'est un peu ce qui arrive ici au roi. Le roi envoie des invitations aux invités. Il refuse d'y aller. Mais malgré cela, au verset 4, qu'est-ce qui est écrit ? Il envoie encore d'autres serviteurs avec cet ordre. « Dites aux invités, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt, venez aux noces. » Les invités refusent une fois d'y aller. Mais le roi insiste à ce que ces invités-là viennent. Pourquoi ? Certainement parce que ils étaient proches, ils étaient intimes et ils voulaient qu'ils soient là. Mais ce qui arrive ensuite, c'est dramatique. Verset 5. Mais eux, les invités, négligeant l'invitation, s'en allèrent l'un à son champ, un autre à ses affaires. Les autres s'emparèrent des serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Toute personne raisonnable qui lit cette histoire devrait être frappée par la folie des invités et par l'absurdité de leurs actes et de leurs actions. Si vous comprenez pas ce qui se passe ici au verset 4, 5 et 6, je vais vous le résumer très simple. Cette situation, elle est analogue à l'Éternel qui invite son peuple, le peuple qu'il a choisi, Israël. Il a invité Israël à être dans sa présence. On lit dans l'Ancien Testament que les Juifs, les Israélites sont insensibles à cette invitation de Yahweh. Et malgré ça, l'Éternel continue a envoyé ses serviteurs, ses prophètes, à ce que les Israélites reviennent vers l'Éternel. Et plusieurs fois, on lit que certains prophètes sont rejetés et certains sont même tués. Et tout au long de l'histoire d'Israël, que ce soit lorsqu'ils sont en exode, lorsqu'ils sont en terre promise ou lorsqu'ils sont exilés, ils continuent d'ignorer l'invitation de Dieu. Verset 7. Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit mourir ses meurtriers et brûla leur ville. C'est un peu choquant, hein, qu'on puisse lire que le roi se mette en colère et qu'il fasse mourir ses invités. Mais en tant que bon roi, la nature de ses responsabilités, c'est de faire régner la justice. Et c'est ce qu'il fait ici. Il fait régner la justice dans son royaume. Et on y reviendra un peu plus tard dans le message. Puis, on continue notre histoire. Versets 8 à 10. Alors, il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et invitez aux noces toutes celles et ceux que vous trouverez. » Ses serviteurs s'en allèrent sur les routes. Ils rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent mauvais et bons. Et la salle des noces fut remplie d'invités. Yahweh, le Dieu d'Israël, rejeté par son peuple, s'est tourné vers d'autres invités, vers les non-juifs, et notamment vers nous. Et donc, peu importe que vous entendiez parler de cette invitation pour la première fois ou pour la 1001e fois, le royaume des cieux nous appelle. Il vous appelle. Le roi des cieux enverra ses serviteurs vous chercher, même quand vous serez à la rue. Il est possible, en tant qu'invité, d'accepter cette invitation et au bout du compte ne pas y aller à cette invitation et de rester chez soi. Comme l'ami de mon pasteur. Et ça peut même être des personnes qui vont habituellement à l'église, mais qui sont parfois trop occupées par leur champ, par leur travail, par leur famille, par leurs occupations personnelles, et finissent par rester chez eux et oublient l'invitation. En fait, je soupçonne la raison est que les personnes qui sont habituées à l'église, pas toutes, bien sûr. Certaines personnes qui sont habituées à aller à l'église, ils se rendent pas compte le privilège et l'honneur que c'est d'être invité au festin des noces royales. Une fois de plus, lorsque vous êtes invité à un mariage d'un ami qui est proche, vous êtes content d'y aller. Vous êtes dans la joie d'y aller. Vous êtes enthousiaste et vous êtes excité à l'idée de célébrer le couple. Alors pourquoi tant de fois ne sommes-nous pas émerveillés que le Créateur de l'univers nous invite à festoyer avec lui? Pourquoi? Peut-être qu'on se dit que l'on mérite amplement d'être invité à cette fête. Et que c'est normal, après tout, d'y être invité, parce que je suis une bonne personne morale, je suis un bon chrétien, une bonne chrétienne, j'ai un bon statut social, j'ai un bon compte en banque, donc c'est normal que je sois invité. Je le mérite. Je suis pas n'importe qui, après tout. Les Parisiens, en général, ce sont des gens assez occupés le week-end. En général, on est invité à plusieurs trucs le week-end, on a plusieurs événements, des anniversaires, des dîners, des soirées, tout ce que vous voulez. Mais moi, j'ai remarqué que les Parisiens attendront toujours la dernière minute pour dire à quel événement ils vont aller, pour voir quelle est la meilleure option du week-end. Bien sûr qu'on peut toujours garder sous la main le carton d'invitation du Créateur et du Roi, et qu'on peut attendre au dernier moment pour y répondre favorablement, pour voir s'il n'y a pas une meilleure option. Mais ici, c'est une invitation qui ne se refuse pas. C'est une invitation royale. Et les premiers invités ont refusé d'aller aux noces malgré la sollicitation du roi. Et le roi, il s'est dit, bon, tant pis si ces invités, ils veulent pas venir. Tout est prêt, la nourriture est prête, le banquet est prêt. Mon fils va se marier, je veux quand même célébrer mon fils. Et ce que je vais faire, c'est que je vais trouver malgré tout des invités qui seront contents de s'asseoir à ma table et qui voudront être dans ma présence. Ceux qui étaient nobles, riches, aristocrates, distingués, puissants, ils ont ignoré l'invitation du roi. Alors le roi ordonne à ses serviteurs de trouver des personnes qui sont transportées, qui sont contentes à l'idée de pouvoir s'attabler à la table royale. Et on y lit que la salle des noces fut remplie d'invités, au verset 10. Elle fut remplie de gens venus littéralement de la rue, des carrefours, des routes. Et c'est ça qui est assez fou. Parce que le royaume des cieux, c'est pour tout le monde. C'est une invitation qui est destinée à tout le monde. Dieu appelle même celles et ceux qui ne sont pas censés venir au festin. Et c'est un vrai défi pour chacun. Pourquoi ? Parce que c'est magnifique et c'est incroyable pour les personnes qui savent qu'ils ne font pas partie de ce cercle, de ce milieu social. Parce que toute leur vie, ces gens-là, certaines personnes ont été marginalisées par la société. Et d'un coup, ils se disent « Ah, mais maintenant, je suis accepté, j'ai de la valeur pour Dieu, pour les autres. » Et c'est bizarre pour eux. Et si, par contre, si vous pensez que cette invitation, c'est normal que vous soyez invité, alors laissez-moi vous dire que vous faites fausse route. Cette invitation, c'est un privilège, c'est un honneur à chacun. Que vous soyez censé être là ou pas. Pourquoi ? Parce que si on garde à l'esprit que c'est un honneur et un privilège, on sera constamment ébahi et émerveillé d'être dans la présence du roi et du créateur de l'univers. Dieu nous invite tous dans son royaume. Peu importe qui vous soyez, quel que soit votre passé, les péchés dans votre vie, votre rang, votre origine, votre métier, votre compte en banque, votre statut social, peu importe. Et si ça vous semble invraisemblable, inconcevable, inimaginable de pouvoir être invité à ce festin, alors vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur la bonne voie. Alors pourquoi ne pas y répondre favorablement ? Pourquoi ne pas répondre favorablement à cette invitation ? Lisez avec moi le verset 11 jusqu'à la fin. Le roi entra pour les voir et il aperçut là un homme qui n'avait pas mis d'habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment as-tu pu entrer ici sans avoir d'habit de noces ?» Cet homme resta là, bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Attachez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres extérieures, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. En effet, beaucoup sont invités et peu sont choisis, ou peu d'élus. » Bizarre, non, comme histoire, comme fin d'histoire. Pourquoi cette fin d'histoire ? On va prendre un peu de recul pour voir pourquoi le roi réagit de la sorte. Une fois de plus, la salle des noces, elle est remplie d'invités qui ont été trouvés dans la rue. Okay. Et en tant que tels, ces invités-là ont été prévus à la dernière minute. Et ça veut dire qu'ils ne sont pas rentrés chez eux, se changer, mettre des habits de mariage. Et ils étaient donc encore dans leurs vêtements du quotidien, dans des vêtements de tous les jours. Et l'hypothèse très probable de certains théologiens et certains biblicistes, c'est qu'à leur arrivée, au festin, le roi pourvoit les habits de noces pour tous les invités, de sa propre générosité et de sa propre initiative. Et l'homme qui n'avait pas mis les habits de noces a certainement pensé que ce qu'il avait sur lui était suffisant pour assister au mariage. Et donc, il a très certainement refusé le cadeau du roi. Et quand on lit la fin de l'histoire, on éprouve une certaine compassion, une certaine pitié pour cet homme. Mais en réalité, on devrait se demander, mais pourquoi cet homme n'a pas accepté le cadeau du roi? Après tout, si on va à un mariage, qui refuserait un costume Kenzo ou une robe Chanel? Qui refuserait ça? Personne. Et justement, ça montre l'absurdité de l'acte de l'homme de refuser ces habits-là. Mais la folie de l'action de cet homme peut aussi refléter d'une certaine manière, parfois, notre propre folie. Et si on est honnête avec soi-même, je pense qu'on aurait très certainement refusé aussi les habits proposés par le roi. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'une des choses les plus compliquées, les plus difficiles dans le royaume des cieux, dans le royaume de Dieu, c'est d'admettre que ce que on a, c'est pas suffisant. Et on déteste cette pensée que ce qu'on est, ben c'est pas suffisant. On peut faire plus. On doit faire plus dans la vie. Mais la seule chose que l'on peut apporter à Dieu, c'est quoi? C'est nos faiblesses, nos besoins et notre petitesse. C'est tout ce qu'on peut apporter à Dieu. Et ça, en tant qu'être humain, c'est très dur à faire. Mais c'est ce que Dieu veut de notre part. C'est notre faiblesse, c'est notre humilité. Et Jésus a dit que le royaume des cieux appartenait aux personnes qui étaient pauvres spirituellement. C'est-à-dire les personnes qui n'ont rien à contribuer, rien à apporter. Être humble et reconnaître sa pauvreté, sa pauvre condition, c'est quelque chose qui est tellement, tellement difficile à faire en tant qu'être humain, parce qu'on est tellement égocentrique, on est tellement centré sur soi. Mais c'est pour ça que ici Jésus dit qu'il y a beaucoup d'appelés, d'invités, mais qu'il y a peu d'élus. Parce que c'est quelque chose de difficile de reconnaître que ce qu'on a, ben ça suffit pas. Mais le royaume des cieux, c'est un magnifique cadeau et vous pouvez l'accepter si vous le voulez. Si vous le voulez. Mais lorsqu'on lit cette histoire, il n'y a pas une chose qui vous frappe, il n'y a pas une chose qui est étrange dans toute cette histoire, à part la fin. Moi, quand je lis cette parabole, je trouve assez énigmatique le personnage du fils. N'est-ce pas? C'est quand même lui qui se marie. C'est quand même lui le prince, alors qu'on sait absolument rien du tout sur lui. Alors pourquoi ce silence? Pourquoi cette absence? Pourquoi aucune mention du prince? Moi, je pense que c'est pas un hasard. Au contraire, je pense que c'est fait exprès dans cette parabole. Il y a un théologien, je ne sais plus lequel, qui a dit que chaque parabole que Jésus nous raconte, Jésus l'utilise pour nous aider à comprendre, nous, ses auditeurs, à comprendre sa vie, sa mort et sa résurrection. Et c'est exactement ce que fait cette parabole. Le silence du prince, ici, il est criant. Et son absence, elle est pesante. Parce que nous savons ce qui va se passer quelques chapitres plus tard, dans Matthieu 26 ou 27. Jésus se fait crucifier. Il meurt à la croix. Et vous savez pourquoi ? Revenons à notre parabole. Revenons à notre parabole. Et voilà ce qui se passe dans la parabole. C'est pas écrit, mais je vais vous raconter l'histoire. Il y a le prince qui est assis dans la salle des noces. Il remarque de loin l'homme qui sent les habits. Il entend tout le brouhaha parce que l'homme se fait attacher des pieds et des mains, comme on peut le lire. Et donc, il entend tout le bruit. Et qu'est-ce qu'il fait, le prince ? Il descend de son trône, il descend de sa chaise royale, il traverse tout le jardin et il dit à ses serviteurs de laisser partir l'homme sans les habits. Et les derniers et les serviteurs ils répliquent mais c'est ton père qui nous a dit de lier des pieds et des mains cet homme. Le prince insiste à ce que cet homme soit relâché. Il leur dit quelle que soit la charge retenue contre cet homme, mettez-la sur mon compte. Le prince royal qui prend la place d'un homme orgueilleux et suffisant, c'est pas une folie totale. Et pourtant, c'est exactement le point du christianisme. Un prince crucifié pour sauver des pécheurs orgueilleux et suffisants que nous sommes. Mais avant que le prince n'ait lui-même les pieds et les mains attachés, il regarde l'homme qui était sans habit. Il regarde l'homme droit dans les yeux, avec plein d'amour et de compassion. Qu'est-ce qu'il fait ? Il enlève ses propres habits royaux et les met sur cet homme qui n'avait pas d'habits, qui avait refusé de mettre les habits offerts par le roi, et lui dit de se lever et d'aller prendre place sur son trône royal, sur le banquet. Ce que Dieu nous propose, c'est pas de simples vieux habits pour pouvoir assister à un mariage qui ont été utilisés. Ce que Dieu nous offre, c'est les propres habits de son Fils. Et cela vient avec l'honneur, le prestige, le statut, les privilèges. C'est un cadeau qui est totalement fou, totalement inimaginable. Mais vous savez ce qui est encore plus fou ? Ce qui serait plus fou, c'est de regarder ces beaux habits, somptueux, royaux, et de les refuser, de s'en aller sans les prendre. Le royaume des cieux, c'est un cadeau. Voulez-vous l'accepter ? Le royaume des cieux, c'est une invitation. Allez-vous y répondre favorablement ? Le royaume des cieux, c'est un festin. Allez-vous y aller ? Chers amis, chers frères et sœurs, le festin, il est là, il est prêt, il nous attend. On n'a plus qu'à festoyer. Prie avec moi. Dieu, merci parce que tu nous parles à travers tes écritures, à travers ta parole, à travers tes évangiles. Et merci pour cette histoire, merci pour cette parabole de Jésus. Parce qu'il nous fait comprendre, il nous fait saisir pas mal de choses sur la nature de ton royaume. Il nous fait prendre conscience de qui tu es, des implications de ta personne. Et merci parce que tu nous convies à ce festin, à ce banquet royal, à cette fête destinée à ton Fils qui mérite tellement tout, qui mérite notre personne, qui mérite notre vie, qui mérite notre cœur, Seigneur. Et je te demande pardon lorsque c'est pas le cas, lorsque on n'est pas totalement dédié à Jésus lorsque l'on fait fausse route, lorsqu'on va voir ailleurs, lorsqu'on est trop occupé par nos champs. Et je te demande que tu puisses nous pardonner, que tu puisses accepter notre confession et notre repentance, et que tu puisses nous faire bénéficier de ta grâce, de ton empathie, de ta miséricorde, et que l'on puisse vraiment se rendre compte de ce que c'est que ce privilège d'être invité à ce festin, Seigneur. Et que nous puissions être transportés à l'idée de pouvoir nous asseoir en ta présence, d'être ébahis, d'être émerveillés par ta personne, par ce que tu fais, par ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Et je te demande que tu puisses vraiment bénir cette assemblée, l'édifier en tant que corps de Christ, et pour chaque individu, qu'elle puisse vraiment prendre conscience des implications que cela amène à avoir lorsqu'on prend ton chemin, lorsqu'on accepte cette invitation. Et donne-nous cette joie, insuffle en nous cette paix, cet amour et cette grâce, que l'on puisse la répandre autour de nous, entre frères et sœurs et aux personnes qui ne te connaissent pas encore. Je te demande d'exaucer ma prière, de l'entendre, et je te prie toutes ces choses au nom de Christ. Amen.